sur le contenu du traité. Sur les mesures de répression. Bon, d'abord sur le rôle de la Commission. Non, il n'y a pas de droit d'amendement direct. Ah, bon. Il y a la Commission, bon, peut fait des rapports, bon, au Conseil. Par contre, tout État peut attaquer devant la Cour de justice, bon, un État, s'il pense, un autre État, s'il pense que l'État ne remplit pas son rôle, enfin, ne remplit pas ses obligations. Hein. Et la Cour de justice peut, disons, prendre des mesures de sanction, notamment financières, allant jusqu'à 0,1% du PIB, ce qui n'est pas négligeable. Par contre, la Commission est présente à tous les moments d'élaboration du budget, des budgets nationaux, à travers ce qu'on appelle le semestre européen. Il y a une série de directives qu'on appelle le CIPAC, bon, tout ça est, passons. Bon, mais en tout cas, il y a un rôle renforcé de la Commission européenne dans la surveillance, hein, des budgets nationaux. Mais la Commission n'a pas le droit de corriger les budgets nationaux. Donc, sur le déficit structurel, bon, le déficit, je pense que ma conviction, ce qui renvoie à pourquoi ils font ça, etc., c'est que les gens, les responsables politiques qui ont signé ce traité dans lequel il y a le déficit structurel ne savaient pas ce que c'était. Ça, j'en suis vraiment totalement convaincu. Hein. Et pour avoir discuté avec, bon, pas avec François Hollande, etc., mais avec un certain nombre de responsables socialistes, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas comment c'est construit, etc. Ça, j'en suis totalement persuadé. Alors, et quand j'entends, par exemple, ce matin, je crois que c'était ce matin, bah, Barthelone sur France Inter, vanter le déficit structurel en disant, il n'y a qu'à prendre le déficit structurel parce que c'est indépendant des aléas de la conjoncture, et donc on pourra pas faire, ça veut dire qu'il n'a pas compris concrètement comment le déficit structurel est construit par la Commission. Il ne sait pas. Il ne sait pas de quoi il parle. Donc ça, c'est absolument clair. Alors, ce qui renvoie, hein, pourquoi les gouvernements font ça? Bon. Je pense que, bon, d'abord, il n'y a pas de complot, ça a été dit, il n'y a pas d'état-major. Il y a un mélange, bon, ça là aussi c'est une conviction personnelle, il y a à la fois un mélange de bêtises et d'opportunités. Bon, de bêtises, il faut pas négliger ça. Hein. C'est-à-dire que quand on regarde ce qu'ont fait les gouvernements dans les années 30, ils ont pris pendant très longtemps toutes les mauvaises décisions, hein, et de façon systématique. Alors que, dans les années 30, il y avait aussi des gens qui disaient que ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Hein, bon. Et ils voyaient que les décisions qu'ils prenaient ne marchaient pas. Donc, y compris d'ailleurs, bon, Roosevelt a pris à un moment donné, par exemple en 1937, de très mauvaises décisions. Hein, il a eu une légère montée de l'inflation en 1937 aux États-Unis. Il a fait une politique d'austérité qui a replongé les États-Unis dans la récession. Il a fallu la guerre pour en sortir. Donc il y a ce côté-là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger. Mais je pense que ce n'est pas suffisant de dire ça. Il y a aussi l'effet d'aubaine pour les gouvernements. Enfin, c'est-à-dire, c'est ce que Naomi Klein appelle la stratégie du choc. C'est-à-dire que les gouvernements utilisent, les néolibéraux utilisent la crise actuelle pour parachever le modèle néolibéral. C'est-à-dire de faire en sorte de liquider tout ce qu'ils n'ont pas pu liquider comme acquis sociaux depuis maintenant une trentaine d'années, bon, parce qu'il y a eu des résistances dans un certain nombre de pays, etc., etc., et qu'ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leur projet. Donc, je pense que, bon, de leur point de vue, c'est comment on utilise la crise à bon escient pour en finir, bon, avec un modèle social qui laissait des droits aux salariés, qui permettait que tout ne soit pas tourné vers les dividendes versés aux actionnaires. Donc c'est ça et donc ce qui est en train de se mettre en place, c'est un modèle voilà, tourné vers la régression sociale. Donc je pense qu'il y a les deux choses à la fois, bêtise et cet objectif-là. Mais en même temps, c'est contradictoire, parce que je pense qu'ils voient bien qu'ils ne sont pas totalement fous, que tout ça est en train de s'effondrer, progressivement. Donc ce qui est tout à fait significatif, bon, c'est que pour le moment, bon, il n'y a pas de débat encore Enfin, ça commence un peu, hein, mais il n'y a pas encore de débat assez suffisant sur les politiques d'austérité parmi les classes dirigeantes en Europe. C'est-à-dire qu'il y a une unité des classes dirigeantes en Europe pour imposer les politiques d'austérité. On voit que ça commence à bouger, hein, puisqu'une partie des gens, et même des économistes officiels, disent qu'on ne peut pas continuer comme ça. Même le FMI commence à le dire, etc. Donc, est-ce que l'unité des classes dirigeantes sur ces questions-là va exploser ou pas? C'est totalement décisif pour notre combat. Parce que si les classes dirigeantes explosent, ça permettra de peser sur leurs contradictions. Aujourd'hui, on a face, en face de nous un bloc uni. Si ce bloc explose, eh bien, il sera affaibli considérablement. Je veux dire, on aura un espace politique qui se développera, qui sera beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Et par exemple, le fait que tous les partis sociaux-démocrates se soient ralliés en fait aux politiques sociales libérales et aux politiques d'austérité, c'est quelque chose qui évidemment affaiblit considérablement toute politique de transformation sociale. Parce que on peut discuter de ce qu'était la social-démocratie, etc. Mais historiquement, la social-démocratie, elle visait à faire un compromis entre le travail et le capital. Pour ceux qui voulaient renverser le capitalisme, c'était une très mauvaise orientation. Mais faire un compromis entre le travail et le capital, ça veut dire malgré tout s'affronter un minimum au capital, donner des droits aux travailleurs, limiter la logique de développement du capitalisme, etc. Ce qu'a fait historiquement la social-démocratie. Le passage de la social-démocratie est ce qui a permis, par exemple, que historiquement, il y a pu avoir des dynamiques de type Front populaire ou de Front unique ouvrier, comme disaient certains, etc. Et là, bon, c'était l'idée, on marche séparément et on frappe ensemble, et avec l'idée qu'on pouvait pousser la social-démocratie plus loin qu'elle voulait aller par les mobilisations populaires et tout. Aujourd'hui, cette idée-là, elle est obsolète. Elle est obsolète parce que la social-démocratie n'est plus sur le même chemin que nous. Ils sont sur un chemin social-libéral qui vise, comme on l'a vu en Grèce, au Portugal, bon, ou en Espagne, à imposer des politiques d'austérité massives. Hein, Zapatero, Socrates et Papandréou. Donc le problème n'est pas de les pousser plus loin, le problème, qui est de toute autre ampleur, c'est de les faire bifurquer. Qui demande des rapports de force beaucoup plus importants et qui fait que, par exemple, les courants radicaux, les courants de transformation sociale sont isolés politiquement. Syriza n'a pas pu arriver au pouvoir en Grèce parce qu'ils ont été incapables, alors que c'était ça leur ligne, c'était juste de le faire, de passer une alliance avec aucun parti de gauche en Grèce. Non seulement le PASOK, mais tous les autres petits partis de gauche, qui ont préféré s'allier à la droite plutôt que de passer une alliance avec Syriza en Grèce. Et toute la social-démocratie s'est réjouie que la droite s'emporte en Grèce. Donc, c'est une situation qui est politiquement très difficile, hein, parce que tous les courants de transformation sociale, alors que ce qu'ils disent rentre en résonance dans les opinions publiques, hein, sont soutenus par les mobilisations populaires très importantes, eh bien, on voit que politiquement, ils sont relativement isolés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Faut pas se raconter d'histoire. On sera dans l'incapacité, sauf bouleversement, d'empêcher la ratification du traité. Mais, venir, on est au début d'un processus. Le fait qu'on soit capable de commencer à se mobiliser contre ces traités, ça anticipe les mobilisations sur les politiques d'austérité. Parce que derrière la ratification du traité, il y a les politiques d'austérité qui suivront inévitablement, qui seront des politiques d'austérité massives. Donc le problème aujourd'hui, c'est face au discours du gouvernement qui nous dit on ne peut pas faire autrement, de montrer ce que j'ai essayé de faire, qu'il y a une autre alternative possible. Parce que si le gouvernement en avait la volonté politique, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de faire ce qu'il fait, l'austérité n'est pas obligatoire, la ratification du TCE n'est pas obligatoire, du pacte budgétaire n'est pas obligatoire, bon, on peut faire autrement. Mais ça veut dire avoir la volonté politique et ça veut dire vouloir s'affronter avec le patronat, avec les autres gouvernements européens, s'appuyer sur les mobilisations populaires au niveau européen. Ce n'est pas le choix qu'a fait le gouvernement Hollande aujourd'hui. Bon. Donc ça, il faut être capable de montrer ça, qu'on n'est pas réduit à accepter ce qui est en train de se passer, ce n'est pas inévitable. Et il faut commencer à se mobiliser, parce que, je veux dire, il faut montrer qu'il existe aujourd'hui des mobilisations importantes pour pouvoir, non seulement qui montrent qu'on refuse ce qui est en train de se passer, mais qui montrent qu'on refusera demain les politiques d'austérité.
Une question.